Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Alors notre invité de ce jour, c'est Alexandre Holan. Alexandre Holan expose au musée de l'Odève et nous présente des arbres. Depuis plus de 30 ans, Alexandre Holan observe et peint des arbres, les arbres de l'Hérault en particulier. Il les peint sans arrêt jusqu'à traduire dans sa peinture une expérience à la fois physique, spirituelle et affective. Il écrit aussi, il rapporte ses sensations et son expérience de ce travail. À travers le motif de l'arbre, c'est notre regard sur toutes les choses qu'il questionne. Ne pas trop regarder pour mieux voir l'essentiel, nous dit-il. Alexandre Holan est né à Budapest en 1933. Son œuvre est présente dans de nombreuses collections publiques et privées et il bénéficie depuis 1980 d'importantes expositions monographiques en France et en Europe. Il nous a confié quelques impressions. Alors Alexandre Holan, vous exposez à l'Odève, donc pendant tout l'été, une exposition assez importante avec des dessins, des peintures, donc un ensemble qui reflète bien votre carrière de peintre. Est-ce que pour vous, le fait de présenter une exposition qui n'est pas totalement rétrospective, mais un petit peu quand même, ça joue un rôle dans l'évolution de votre manière de travailler? Est-ce que c'est important d'avoir ce type d'exposition?
D'une part, c'est pas tout à fait mon œuvre parce qu'il y a une partie importante qui ne concerne pas les arbres, qui concerne plutôt des vies silencieuses. C'est les natures mortes que j'aime appeler comme ça. Un ou deux sujets comme le visage, par exemple, en plus. D'autre part, pour la partie concernant les arbres, c'est une exposition un peu spéciale. C'est pas vraiment une exposition rétrospective. C'est une exposition qui essaye de tracer un itinéraire sur la manière dont je comprends maintenant l'approche de l'arbre.
C'est-à-dire que au fond, vous nous prenez un peu par la main et vous nous emmenez sur votre façon de percevoir, de dialoguer avec l'arbre.
C'est peut-être justement ça. C'est-à-dire j'ai deux ou trois contacts que j'ai développés face à l'arbre et que j'ai essayé de rendre accessible dans cette exposition. Sans regarder vraiment le côté plastique, esthétique, pour créer un itinéraire spectaculaire. C'est beaucoup plus un itinéraire d'accès par différentes portes vers ce monde silencieux qui est le monde des arbres.
Alors je crois que ce qu'il faut expliquer aussi, quand même à nos auditeurs, à ceux qui viendraient voir l'exposition, c'est que ce n'est pas une exposition didactique. Il ne s'agit pas d'une approche scientifique ou de l'arbre. Bien au contraire, c'est une approche très sensible. Et quand vous dites... au fond, c'est une approche du vivant, parce que cet arbre qui, pour à notre seule vue, ne semble ne pas bouger, hormis quand il y a du vent. En fait, il vit, il bouge, mais comme ça n'est pas à la même échelle que nous, on ne le voit pas. Et vous, vous nous montrez justement que l'arbre vit.
L'arbre vit quand je vis comme lui.
Avec lui, oui.
Donc, quand je sens la vie qui traverse l'arbre, je la sens en moi, comme un mouvement qui n'est pas une succession d'images, d'idées, mais qui est une sensation. Donc, cette forme d'approche, la sensation, est une approche qui souvent manque au regard. Dans le regard des meilleurs artistes, souvent la sensation et le regard sont bien reliés. Ils sont bien reliés chez un Rembrandt, chez un Courbet, chez un Braque, chez un Corot. Je parle des peintres qui sont devant le visible.
Alors l'exposition est ponctuée de questions. Et ce sont ces questions qui assurent le fil rouge, on peut dire, du début jusqu'à la fin. Pourquoi avoir choisi ce cheminement-là ?
Un arbre ne parle pas avec des mots. Il se passe un échange entre l'arbre et moi qui n'a pas, qui est un échange silencieux. Mais pour mieux le comprendre, en moi-même, j'ai besoin de le formuler. Et le formuler plutôt en question qu'en réponse. Parce que les réponses sont souvent des réactions. Et une question, c'est un élan. Souvent, quand je suis devant l'arbre, je lui demande, mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu vis? Est-ce que si tu vis, comment je peux le sentir? C'est ce genre de question qui se formule sans mots en moi. Et donc, comme question, j'attends de l'arbre une réponse. Et la réponse, la plupart du temps, elle vient dans le dessin ou dans la peinture, pas dans les mots.
Dans la sensation.
Dans la sensation qui passe par le bras, par le pinceau, et qui accompagne le visible qui est devant moi. Donc qui prend forme à travers l'arbre. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du motif. Ce que les peintres contemporains souvent ne comprennent pas, que le motif est seulement là pour l'interroger, pas pour le combattre, ou pas pour le transformer selon notre fantaisie ou nos passions.
Alors, la plus grande partie de ce qui est exposé est en noir, en noir et blanc. Il n'y a qu'à la fin que là, on a à la fois de la couleur, des grandes masses de couleurs et des grands formats aussi. Pourquoi ce choix du noir et blanc, enfin au fond du dessin, avec un format qui est un format classique? Parce que vous allez devant l'arbre, parce que vous travaillez sur le motif, c'est plus facile en noir et blanc qu'à...
C'est très difficile d'être en contact, créer un contact vivant avec le motif, devant le motif. Que ça ne soit pas une illustration, une image extérieure d'un arbre qu'on reconnaît comme on reconnaît ça sur une photo. Mmh. Donc, cette sensation, elle cherche en nous son chemin. C'est elle qui choisit ses moyens. Le moyen le plus direct, le plus simple, le plus fluide, pour moi, c'est le fusain. Le fusain qui s'entend très bien avec le papier, qui se fonde au papier, qui imprime pratiquement le mouvement de la vie tel qu'il est. Médicalement, presque comme chez un cardiologue, on voit comment les vibrations se passent. Il y a aussi d'autres moyens. Il y a, par exemple, le pinceau, le pinceau qui ne supporte pas de correction. Donc, il a besoin d'être sûr, d'être affirmatif, d'être d'une certaine façon combatif. Le papier lui répond ou l'arbre lui répond. Et ça devient une sorte de discussion, de bataille quelquefois entre les deux. C'est une manière plus abrupte de parler. Mmh. Ou alors il y a cette sorte de nostalgie que je sens souvent quand tous les dessins défilent devant moi, il y a une partie de l'arbre que je n'ai pas pu toucher par cette façon. Et cette nostalgie, c'est la nostalgie de la lumière en nous. La lumière qui est un besoin profond que j'ai en moi comme un besoin d'éclaircir des zones sombres qui dorment et qui attendent d'être rejoints. Et cette lumière, elle passe par la couleur, bien sûr. Mais son cheminement est beaucoup plus complexe. Mmh, mmh.
On maîtrise moins peut-être le...
On maîtrise moins, c'est moins instinctif. Il y a une grande part d'intelligence qui doit venir toujours pour moi, la couleur, c'est une forme de mathématiques. C'est-à-dire, c'est une pensée en une pensée qui se calcule en couleur primaire. Mm-hmm. Quand je vois un gris, un certain gris, je dois savoir quel rouge, quel bleu et quel jaune va obtenir ce gris. Et ce calcul, c'est pas un calcul mental, mais c'est un calcul mental du sentiment.
Le calcul éloigne de la sensation.
Le calcul ne peut plus compter sur l'instinct.
Alors, donc il y a quelques grandes surfaces en couleur. D'ailleurs, durant la visite, vous nous avez dit, je ne fais pas de commentaires parce que ça m'échappe. C'est comme si le grand format, vous n'arriviez plus à maîtriser la forme que vous donnez à l'arbre dedans. Pourquoi dire que ça vous échappe? Parce que vous n'en maîtrisez pas les contours dans les grands formats.
Le grand format est très sévère, très exigeant. Ce que je ne voyais pas en petit, ce qui faisait encore partie du travail que le corps fait sans aide dans le grand format n'est plus possible. Si je trace un geste avec un pinceau très large en grand format, le rythme qui doit le rendre vivant ne peut pas venir tout seul. Il faut que je sache à quel endroit il se tend, à quel endroit il se détend. Et toute cette intellectualisation doit être sans copier. Donc doit être senti intérieurement. C'est ça qui est une grande frontière difficile à franchir à partir d'une certaine dimension. Si vous voulez, pour moi, il y a une dimension qui est la dimension qu'un bras peut facilement englober. Et ce qui dépasse ce geste est déjà au-dessus de cette limite.
Oui, c'est ça qui échappe.
Oui. Oui.
Alors, vous exposez quelque chose que vous avez dit n'avoir jamais eu l'occasion ni même la possibilité matérielle d'exposer. Ce sont ces grandes colonnes de papier avec toute une série de traces, on pourrait dire, verticales.
Oui.
Alors, comment est-ce que vous travaillez pas sur une telle... C'est par morceaux ou comment vous le fabriquez, ça?
Oui, c'est un travail que j'appelle finalement écriture d'arbre ou signe d'arbre. C'est un travail que je pratique depuis 40 ans, 45 ans, et qui se base sur l'expérience que la perception se transforme tout le temps, d'une seconde à l'autre.
Oui. en permanence.
Et pour une certaine fidélité à l'instant, j'ai préparé des feuilles de papier qui sont pliées en quatre, qui permettent donc de réunir quatre images successives l'une au-dessus de l'autre, en accordéon. Et où je m'installe devant le motif, et en regardant le motif, je sens pour un instant fugitif comment la vie le traverse, comment la vie s'imprime dans cette forme. Et sans que le moindre explication perturbe ce geste, j'essaie de le tracer sur cette feuille. Après, je plie, je passe sur la deuxième pli, tout en oubliant pratiquement ce qui était la précédente. Et la troisième, et j'avance comme ça, de colonne en colonne, et chaque série se compose de quatre images successives, mais dans une journée dans une séance d'une heure devant un arbre, je peux faire 4-5 colonnes de 20 signes de 4 signes, donc une vingtaine de signes quelquefois se succédant, et qui curieusement ne donne rien de d'isolé. Il y a une sorte de rythme d'écriture étrange qui se révèle en les regardant, et qui ne ressemble ni à une écriture orientale, ni à une calligraphie islamique, ni à une écriture des lettristes. C'est pour moi l'écriture de la nature, mais c'est aux autres de vérifier comment ils peuvent appeler ça.
Alors pour terminer, vous avez, on le voit un peu dans l'exposition, certains de vos travaux ont illustré beaucoup de textes poétiques, ou de textes en prose aussi. Alors Yves Bonnefoy, d'après ce que j'ai compris, est quelqu'un qui vous est très proche, mais aussi Philippe Jacoté, mais aussi Stanislas Tétier, enfin beaucoup d'écrivains. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce voisinage ou ce compagnonnage avec de grands écrivains? Le fait que le texte et la peinture, enfin le dessin, il y a un dialogue aussi entre l'écriture et le dessin.
Pour moi, la poésie et l'image sont deux modes qui doivent se comprendre. Un peintre a besoin d'images. Un poète a besoin de gestes. Mettons Yves Bonnefoy, par exemple, j'ai reçu des images qui me nourrissent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Les poètes, Yves, souvent aussi le reconnaissaient, ils ont besoin de cette incarnation qu'un peintre peut donner aux mots. dans un geste, dans une forme, ils ont raccourci tout le travail d'un écrivain. Donc, cette relation entre le mot et l'image est une relation qui nous lie très profondément.
Est-ce que vous n'avez pas été tenté vous-même d'écrire de la poésie ?
Non. Pour mon espace est un espace dans lequel les mots et les images se cherchent, mais à partir d'expériences visuelles précises. Donc j'écris, mais j'écris des notes qui viennent après des séances de peinture. Ils ne viennent pas sans ce passé
d'expérience.
Oui. J'ai besoin de... Et en même temps, j'ai absolument besoin de donner quelquefois des mots à une expérience que j'ai vécue et qui en moi va se perdre si je ne peux pas lui donner un sens.
Voilà, ainsi s'achève cet entretien avec Alexandre Olan. La semaine prochaine, c'est Sylvain Tesson que nous aurons l'occasion de rencontrer. Sylvain Tesson qui fera l'objet de deux émissions consécutives. Merci à tous, à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.